tous. Arnold Schwarzenegger, encore politique d'Hollywood au poste de gouverneur de Californie, il incarne aujourd'hui l'Amérique. Retour sur la fabrique d'un homme et de sa légende avec les réalisateurs d'un documentaire qui sera diffusé dimanche sur Arte. Jérôme Momcilovic et Camille Jusa seront avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, Judith Henry en majesté, révélée au théâtre dans Roberto Zucco de Coltès en 92. Elle passe aujourd'hui d'un univers à l'autre, de la féminité d'Annie Ernaux au Berlin des années 70 de Fassbinder, elle épouse les mots des autres. En ce moment, la discrète de Christian Vincent, César du meilleur espoir féminin, se dresse en reine d'Égypte sur la scène du nouveau théâtre de Montreuil dans Cléopâtre in Love, à voir jusqu'au 22 février avant tournée, dont mars les 13, 14, 15 au Théâtre National de Strasbourg et sur notre antenne le 15 mars dans l'atelier fiction. Judith Henry, tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Pascal, les pensées. Bonjour Judith Henry.
Bonjour.
Le vôtre est parfait. Ne touchez à rien. La Cléopâtre de Christophe Fiat revisite sa propre légende. Elle s'interroge sur l'image qu'on se fait d'elle à travers le cinéma, à travers la musique, à travers les livres aussi. Une image surfaite et par certains aspects, pour vous, aussi contrefaite.
Oui, bah c'est étonnant. C'est vrai que quand Christophe Fiat est venu me voir et m'a dit « j'ai envie d'écrire une pièce autour de la figure de Cléopâtre hein, et j'ai envie d'écrire cette pièce pour toi », sur le moment, j'ai réfléchi et je me suis dit « oui, alors c'est qui est cette Cléopâtre ?» Et effectivement, tout de suite, c'est la Cléopâtre de Mankiewicz, Elizabeth Taylor, c'est la Cléopâtre de la bande dessinée, c'est la Cléopâtre de Chabat aussi, de Monica Bellucci. Enfin, et c'est des images très féminines et très sexy, en fait, et très iconiques. Et je me suis dit, c'est étonnant que cette femme, qui est quand même une chef de guerre, extrêmement puissante, soit réduite à ses attributs féminins. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui d'elle, ce qui nous reste d'elle.
D'ailleurs, on se souvient des mots de Plutarque sur la beauté de Cléopâtre. On prétend que sa beauté, considérée en elle-même, n'était pas si incomparable qu'elle ravit d'étonnement et d'admiration. Mais son commerce avait un attrait auquel il était impossible de résister. Les agréments de sa figure, soutenus des charmes de sa conversation et de toutes les grâces qui peuvent relever un heureux naturel, laisser dans l'âme un aiguillon qui pénétrait jusqu'au vif.
C'est beau, Plutarque.
Extrait de « Les vies des hommes illustres », Plutarque vit d'Antoine avec une traduction de Ricard en 1840. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter de sa postérité, votre Cléopâtre ?
Ce que je trouve étonnant, c'est comment effectivement un personnage qui a existé il y a 2000 ans, quand on en parle encore aujourd'hui, on excuse finalement, enfin on explique, on n'excuse pas, on explique sa force hein, et sa puissance hein, par ses attributs féminins. On dit, puisqu'elle a séduit César, puisqu'elle a séduit Marc-Antoine, elle est devenue puissante. C'est pas son intelligence, c'est pas... Et je trouve que c'est quelque chose avec laquelle on a affaire encore aujourd'hui, sans arrêt, quand on est une femme. C'est difficile de s'imposer et d'être parfois plus intelligente qu'un homme, par exemple, ou enfin la position, les positions de pouvoir pour les femmes aujourd'hui sont encore très très difficiles, je trouve.
Alors là, en plus, elle évoluait dans un monde d'hommes, de Marc-Antoine à César, de Marc-Antoine à Octave. Elle a vraiment dû aussi se faire une place. Vous l'évoquiez comme chef de guerre. C'est un puzzle à trous, surtout cette histoire de l'image aussi qu'on a de Cléopâtre. Il y a peu de représentations de la vraie Cléopâtre, si bien que vous vous êtes rendu au département des antiquités égyptiennes du Louvre et vous n'avez pas trouvé tant de choses, un buste.
Oui, voilà, il y a juste un buste marqué avec un point d'interrogation, peut-être Cléopâtre. Et là, je me dis, bon, au Louvre, ils se sont dit, on va quand même mettre une fois Cléopâtre quelque part dans la galerie des Égyptiens. Donc, ils ont mis cette petite étiquette. Mais c'était très rigolo, oui, d'aller au Louvre et de. J'avais l'impression d'être Cléopâtre. Qui allait chercher ses amis qui restaient qui étaient là encore présents aujourd'hui 2000 ans après sa mort Et je cherchais le plus de représentations possibles de Cléopâtre, ou en tout cas de la période des Ptolémées, la période qui correspond à la période de sa vie. Et je croisais des hordes de touristes qui, eux, cherchaient Mona Lisa. Donc je disais, moi, je m'en fous de Mona Lisa, je vais aller voir. Je suis quand même allée voir Mona Lisa à la fin. Donc, et on a fait des photos avec Jean-Louis Fernandez, qui sont
que
des
vous
photos
sur scène.
Voilà, oui, qui étaient vraiment l'idée de remettre Cléopâtre aujourd'hui dans la modernité et donc au musée du Louvre.
Et quelle est la plus juste représentation que vous ayez trouvée d'elle? Celle qui vous parle le plus?
D'une certaine façon, il n'y en a pas. Et c'est vrai que même ce qui nous reste, c'est-à-dire plus tard, les écrits qui racontent sa vie, sont des écrits qui datent d'après sa mort et qui ont été faits d'une certaine façon pour salir sa postérité. Pour effectivement nous amener encore aujourd'hui à penser que puisque si elle était si puissante, c'est parce qu'elle était séduisante. Point final, quoi. Alors que c'est absolument pas vrai, quoi. Et qu'elle était extrêmement intelligente, polyglotte, très très cultivée. Pas du tout cette image de femme qui, cette image qu'on trouve sur des savonnettes ou parce qu'aujourd'hui quand même, c'est des salons de beauté, c'est des salons de beauté Cléopâtre, c'est vraiment une image de la luxure et de la séduction, voire même presque de la putain, de la prostituée, comme on l'a d'ailleurs traitée à l'époque, quoi. Je trouve ça extrêmement violent, quoi, quand même.
Séductrice, femme à homme et capricieuse, peu de représentation de la vraie Cléopâtre, si bien que le cinéma a rempli aussi un vide et la musique, trois films, trois visages, les reconnaîtrez-vous?
Notre histoire commence, il y a bien longtemps, à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux, ici même, en Égypte, dans le palais de la reine des reines, la légendaire et délicate Cléopâtre.
Assez !
Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome.
Une province ?
Ah oui.
Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Je me présente devant vous avec toute la puissance de Rome. Et solennellement, je déclare que la reine Cléopâtre, veuve du consul Jules César, était sa seule et légitime épouse.
A queen of us, a real, real queen. Cleopatra, a queen. Oh, I love you for making me a queen.
But queens love only kings.
I will make all the men I love kings. I will have many young kings with round, strong arms. And when I'm tired of them, I shall whip them to death.
You shall have them. You shall have them all, and in peace. But there is only one way. My way. Make me queen.
Il y a eu Elizabeth Taylor, il y a eu Vivian Leigh, il y a eu Monica Bellucci. Aujourd'hui, il y a vous, Judith, Henri. Tous ces films, toutes ces chansons, vous les avez réécoutées, revues. Et c'est là où vous nous dites, elles disent toutes finalement un peu la même chose. On a beaucoup joué avec cette image et cette aura qui aura aussi été ternie, un peu passée au tamis de l'histoire, une histoire toujours écrite et interprétée par des hommes. Ici, dans la pièce, Cléopâtre, elle se rebelle et elle clame haut et fort « Je ne suis pas un chef poilu de tribu, je suis la reine d'Égypte. Je suis une reine avec une poigne de fer. » Et elle se montre enfin de face, pas toujours de profil, dans toute sa splendeur pour vous.
Oui, après, c'est marrant, c'est vrai que il y a des projets comme ça qui vous arrivent. Je ne suis pas à l'initiative du projet. Après, pour des raisons diverses et variées, je me suis retrouvée, en fait, avec Christophe à finalement prendre la direction de, oui, du projet, à réunir l'équipe artistique, que je vais quand même citer, parce qu'il y a donc Claire Ingrid Cotenceau qui nous a accompagnés dans la fabrication du spectacle. Il y a Stéphanie Daniel qui fait les lumières et Renan Cahorogallier qui fait la régie générale. C'est des gens que j'ai réunis, en fait. Ça, déjà, c'est des nouveaux pour moi. Et c'est vrai que c'est réunir des gens et se retrouver à gérer à diriger un projet qui parle d'une femme et qui parle d'une femme qui a été bafouée, d'une femme dont la réputation est à refaire d'une certaine façon. Enfin, donc c'est un projet très féminin mené par un homme aussi. Enfin, il y a ça rejoint un peu, oui, ça rejoint la vie, ça rejoint ma vie, ça rejoint ma vie d'actrice. Il y a des projets comme ça, on se dit, tiens, ça n'arrive pas par hasard. C'est
un homme, Christophe Yat, qui a déjà travaillé sur plusieurs figures féminines, dont Isadora Duncan. Vous, cette héroïne Cléopâtre, c'est une héroïne tragique, mais vous la rangez, vous la classez à côté de quelle autre idole ou figure féminine?
Ça, je sais pas, je me suis pas posé la question. Ce que je trouve vraiment, en plus, c'est effectivement joyeux et rigolo à faire dans ce spectacle. C'est de constater, comme là on entendait les Bangles, Walk Like an Egyptian, mais c'est qu'on a retrouvé, il y a énormément de choses qui traitent de Cléopâtre aujourd'hui. Effectivement, la musique pop, rock, ska, rap, reggae, il y a aussi des opéras, il y a effectivement les films. Donc c'est toute une culture pop aussi, une culture très contemporaine qui continue en fait à se servir de Cléopâtre pour qui elle est leur inspiratrice encore aujourd'hui. C'est quand même assez rare, quoi, je trouve.
Alors, icône pop en ce moment sur la scène du Nouveau Théâtre de Montreuil, vous revenez beaucoup aussi sur ce rôle interprété par Elizabeth Taylor dans le film légendaire de Mankiewicz qui était sorti en 63, et 50 ans après, vous interrogez aussi Liz Taylor dans ce qu'elle a pu faire, elle, de ce mythe et de cette légende. Malheureusement, elle a eu une aventure, elle a été une femme adulte sur ce tournage, et tout de suite ce que l'actrice a fait a déteint sur le personnage, le rôle qu'elle incarnait. Hein.
Oui, c'est vraiment c'est vrai que les premières fois quand je lisais le texte de Christophe, quand elle s'adresse à Elizabeth Taylor, elle dit Cléopâtre, Elizabeth, c'est Cléopâtre, quoi. Et au début, c'était drôle parce que c'est des anecdotes de tournage, c'est effectivement cette histoire d'adultère, ça. Et puis en fait, on se rend compte que c'est extrêmement tragique, hein, et que c'est pas du tout drôle, et qu'elle a quand même tenté de se suicider sur ce tournage, Elizabeth Taylor, donc à cause de tout ça, de la rumeur, des paparazzis. Et en même temps, Cléopâtre est effectivement une grande amoureuse. Elle n'était pas très amoureuse de César, mais elle était extrêmement amoureuse de Marc-Antoine. Donc, ce qui s'est passé sur le tournage de Mankiewicz entre Richard Burton et Elizabeth Taylor, c'est une très grande histoire d'amour. Et c'est beau.
C'était une femme amoureuse, extrait de Cléopâtre in Love.
Adieu, 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 ne m'oublie pas. Que les déesses et les dieux nous protègent des faux pas. Je ne sais pas combien de temps, printemps, été, automne, hiver, tiens, revoilà le printemps et une année s'est écoulée. La noblesse de la vie, c'est de faire ça et tu m'embrasses là. Mon cœur est serré, mes yeux pleurent des larmes de sang. Je n'entends plus battre mon cœur, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu penses à moi tous les jours? J'ai pour toi une armure en or que je garde pour ton retour. La noblesse de la vie, c'est de faire ça et tu m'embrasses là. Je t'aime comme une panthère à un point que tu n'imagines pas. Je t'aime comme un serpent de mer à un point que tu n'imagines pas. Si les Égyptiennes pissent debout, elles n'en sont pas moins sentimentales. J'ai rêvé que tu étais jaloux et que tu me mettais la tête dans le sable. La noblesse de la vie, c'est de faire ça et tu m'embrasses là. Adieu, 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 ne m'oublie pas.
Que les déesses et les dieux nous protègent des faux pas. Adieu, adieu, adieu. Adieu, adieu, adieu. Adieu, adieu, adieu. Adieu, adieu, adieu.
C'était une femme amoureuse des hommes, mais aussi amoureuse du pouvoir. Elle a gouverné pendant longtemps. Est-ce que l'une des zones d'ombre pour vous de sa vie, ça reste aussi sa mort, la solitude dans laquelle elle a pu à la fois vivre et évoluer, puis son choix de mourir et cette disparition. Où est-ce qu'elle est enterrée d'ailleurs, Cléopâtre ?
On n'a pas retrouvé en fait son tombeau parce qu'a priori il est sous l'eau. Vers Alexandrie, je crois. Sauf que oui, et elle veut être enterrée avec Marc-Antoine. C'est ce que raconte Plutarque. Mais bah en fait, elle meurt. Non, bah finalement, il y a une légende. Et la légende aussi, c'est vrai, c'est parce que on n'a rien retrouvé. Mais la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle se suicide parce qu'elle ne veut pas être livrée vivante à Octave et ramenée à Rome comme une prise de guerre. Elle veut pas être humiliée comme César l'a fait avec Vercingétorix. Donc elle dit plutôt crever. Elle choisit de mourir. Donc c'est avant tout la chef de guerre qui se dit je ne me rendrai pas à Octave, donc je préfère mourir, quoi.
Et si Plutarque est son véritable biographe, il y a aussi ces mots de Shakespeare dans Antoine et Cléopâtre qui écrit « Viens, mortel aspic, que ta dent aiguë tranche d'un seul coup ce nœud compliqué de la vie. Allons, pauvre animal venimeux, courrouse-toi et achève. » Ça, c'est juste avant son suicide, Cléopâtre parlant à l'aspic. Une femme amoureuse, votre Cléopâtre in love, une reine surtout, et en musique, ça donne quoi ?
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
En 2019, on rêve encore d'être reine. Là, c'est la reine de Angèle. Ce soir auront lieu les 34e Victoires de la Musique. Ce sera en direct sur France 2 et chez nos confrères de France Inter. Et parmi les nommés dans la catégorie Album Révélation, aux côtés de Fouet et de Ronnie Alter, on retrouve la chanteuse de 23 ans, Angèle, pour cet album Brawl, sorti à l'automne, en octobre dernier, paru d'abord sur le label Initial, qui fera souffler une braise légère et belge sur cette cérémonie. Aux côtés d'autres révélations féminines, Jeanne Adède, nommée dans les catégories artistes féminines et album rock, et Clara Luciani en révélation scène. France Culture avec la comédienne Judith Henry, il est midi 22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Parlons des femmes. Cléopâtre, quelle féminité, Judith Henry, elle revendique?
C'est-à-dire?
Quel type de féminité revendique-t-elle, elle? Justement, si on met de côté tous les clichés que les hommes ont pu poser sur elle, pour vous, c'était quel type de femme?
Je pense que c'était une femme qui aimait le pouvoir. C'est vrai que l'Égypte, à l'époque déjà de son père, de Ptolémée XIII, l'Égypte est le grenier en fait à blé de Rome, donc des Romains. Très important, un territoire très important, l'Égypte, pour les Romains. Cléopâtre, elle le sait. De toute façon, elle est élevée pour devenir la reine. Elle est aussi à une époque où, dans sa dynastie, c'est extrêmement sanguinaire. Tout le monde s'assassine. On veut le pouvoir. Donc, c'est une femme de pouvoir.
Dans Mémoire de fille, elle est la fille de 1958. Vous avez adapté avec la metteur en scène Cécile Baquet à Béthune, au Centre dramatique, ce texte phare de Annie Arnaud, avec Pauline Bell à vos côtés, chacune à un âge de la vie de l'écrivaine Annie Arnaud. La féminité, la honte et l'écriture, dans ces mots, elle nous en parlait à la grande table juste avant l'été.
D'une certaine façon, quand on a éprouvé de la honte, il y a quelque chose qui est inscrit, qui fait que la mémoire de la honte, c'est très difficile de s'en défaire. Alors, je crois que justement, une parole collective, ça peut aider, voilà. C'est cela. L'écriture elle-même est aussi une façon de la surmonter, de la dire. Mais il faut franchir ça. Il faut franchir le moment de la parole et il faut franchir le moment de l'écriture. Je sais que Mémoire de fille, moi j'ai mis 40 ans à l'écrire. Je ne pouvais pas. Voilà. Le problème, c'est est-ce que c'est praticable? C'était praticable. Est-ce que dans la France des années 50, est-ce que c'était praticable de vivre sa liberté, d'être libre et de ne pas considérer ce qu'on a vécu comme une honte? Non, ça ne l'était pas. Et il faudra effectivement 10 ans plus tard que 68 passe par là et qu'il y ait une libération à ce moment-là tout de même de la sexualité, de la parole, même si cette libération a été plus favorable aux hommes qu'aux femmes.
Elle a mis 40 ans à l'écrire, Mémoire de fille, Annie Arnaud. Et vous, Judith Henry, est-ce que vous avez mis du temps à le dire? La metteur en scène, Cécile Baquet, précise que la théâtralité de cette écriture est une quête ténue, fine et fragile, et qu'il faut la préserver de tout artifice. Cette écriture d'Annie Arnaud, elle est difficile à adopter.
Bon, alors c'est l'adaptation d'un roman, donc c'est vrai que c'est pas une langue qui est faite pour le théâtre. En même temps, je me suis sentie très bien très vite dedans et j'étais extrêmement heureuse et investie de porter cette parole. Et c'est vrai que je trouve que cette histoire, Mémoire de fille, racontée effectivement 40 ans après, 50 ans après, cette honte qu'elle a ressentie lors de sa première expérience sexuelle avec un homme, c'est très fort et c'est très important en fait de transmettre cette parole et que des jeunes femmes, des jeunes filles l'entendent aussi. Et c'est une très belle écriture. Elle a une façon d'écrire et justement quand on l'apprend par cœur, on s'aperçoit que c'est vraiment des. Elle répète beaucoup de fois la même chose, mais en fait à chaque fois avec une petite différence pour aller vraiment au plus profond de ce qu'elle a à dire.
Et on entend avec elle que la parole sur scène, en fait, comme l'écriture dans les livres, peut aider à dépasser la honte ou d'autres sentiments, à la fois profonds et superficiels. Ça, c'est ce que Christophe Fiat dit de vous. Il dit aussi avoir voulu travailler avec vous parce que vous avez un parcours authentique. Ce sont ces mots dans ce métier. Où est-ce que vous placez l'authenticité?
Ouais, c'est un mélange de plein de choses. C'est vrai qu'il y a, déjà... écouter son cœur et écouter ses désirs, hein. Ne pas renoncer à ses désirs, comme je le dis dans la pièce aussi de Christophe. Mais oui, moi, j'ai jamais écouté les sirènes de la célébrité. J'ai toujours préféré aller vers les projets qui me tenaient le plus à cœur, même si c'était des projets qui étaient plus intimes, moins ambitieux, etc. Après, c'est vrai que je trouve que voilà. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai commencé à jouer au théâtre, j'en avais 10. Et là, d'être de signer un projet avec quelqu'un, d'être aux commandes d'un projet, c'est quelque chose de très joyeux, de très heureux, de très difficile, mais c'est une façon de prendre le pouvoir aussi. Un peu comme Cléopâtre.
Et c'est aussi les retrouvailles à intervalles réguliers pour vous avec une génération d'auteurs ou de metteurs en scène comme Falk Richter, comme Stanislas Nordet, comme Nicolas Bouchot qu'on entend dans ce spectacle Cléopâtre in Love qui fait la voix off et avec qui vous avez travaillé sur le projet Luciole puis Interview. Et à ce propos, on va vous retrouver en avril au Rond-Point à Paris après la colline pour Je suis Fassbinder de l'allemand Falk Richter, mise en scène en duo avec Stanislas Nordet. Tout le monde est réuni. La pièce a été créée il y a 2 ans au Théâtre National de Strasbourg. C'est une chronique de la violence du monde qui prend racine dans les années 70 dans un dialogue de Fassbinder avec sa mère et dans un Berlin de la fraction armée rouge. Je ne suis pas une utopie, je suis une réalité. On entend l'Europe s'exprimer aussi dans cette pièce. En ramenant la mémoire sur le devant de la scène avec cette pièce, est-ce que vous avez le sentiment, Judith Henry, qu'une fois encore, le théâtre peut nous aider à dire le monde d'aujourd'hui, à dire sa violence, à dire sa complexité?
Bah oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'en plus, la pièce de Falk Richter, la particularité qu'elle a, c'est qu'effectivement, elle parle de faits de société, elle parle du terrorisme, elle parle des attentats qui ont eu lieu à Paris, donc de choses qui nous ont touchés intimement. Et donc, c'est un mélange de paroles politiques, mais aussi de paroles intimes. Et donc, c'est vrai que les spectateurs, les retours qu'on avait des spectateurs après le spectacle, c'est on se sent extrêmement concerné par le récit, par ce qui se passe sur le plateau. On a l'impression qu'on pourrait être les personnages que vous interprétez sur scène. Donc, je trouve que c'est en ça que la pièce est réussie et qu'elle a eu autant de succès.
Et le lien entre Cléopâtre in Love, entre les mémoires de Annie Ernaux et ce Je suis Fassbinder de Falk Richter pour vous?
C'est des paroles de femmes très fortes. C'est des paroles, oui, puissantes, fortes. Fragile aussi, abîmée. C'est des femmes qui ont pris des coups, les trois. Alors, plus Annie Ernaux et la femme que j'interprète dans Fassbinder, parce que Cléopâtre, on ne sait pas grand-chose d'elle. Mais quand même, oui, son image est abîmée avec le temps. Donc, c'est pas facile d'être une femme, mais ça vaut la peine.
Ça, c'est la comédienne qui parle ou c'est... C'est celle qui interprète ces trois rôles. Enfin, c'est les trois rôles.
Les deux.
D'accord. Merci beaucoup à vous, Judith Henry. Merci. On vous retrouvera donc en avril au Rond-Point pour ce Je suis Fassbinder de Falk Richter avec une mise en scène de Stanislas Nordet. Et on peut vous voir tout de suite en ce moment à Montreuil, donc en région parisienne, au Nouveau Théâtre de Montreuil pour Cléopâtre in Love, un projet que vous avez co-élaboré avec Christophe Fiat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.